Parlons nature. Bienvenue dans l'émission. Ça donne pas le bourdon. Proposé et co-animé par Indre Nature, l'association Épinété,
le Centre permanent d'initiative pour l'environnement
et la Réserve naturelle nationale de Chérine. Dans l'émission Ça donne pas le bourdon, tous ensemble, parlons d'environnement.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la capsule de l'émission Ça donne pas le bourdon, l'émission qui parle d'environnement sans donner le bourdon. Aujourd'hui, je vais échanger avec Michel Barato, qui est un naturaliste spécialiste des chiroptères, c'est-à-dire des chauves-souris, et qui est aussi un formateur historique des stages en Braine, les formations professionnelles qui sont organisées par le CPIE Braine-Berry. Bonjour Michel.
Bonjour.
Est-ce que tu peux te présenter pour commencer ?
Oui. Alors peut-être commencer par l'âge, ça peut paraître bizarre de commencer par là, mais ça va expliquer plein de choses dans ce que je vais expliquer par la suite peut-être. J'ai une soixantaine d'années, ça veut dire que ma jeunesse, qui correspond à la période où j'ai été confronté à la découverte des chauves-souris, s'est passée une époque où le développement de la technologie n'était pas du tout le même, et où le monde naturaliste n'était pas organisé de la même façon non plus. Dans les années 1980, le monde naturaliste était très recentré sur un fonctionnement associatif, uniquement basé sur le bénévolat. Alors que maintenant, c'est un monde qui est basé énormément sur le salariat, comme les entreprises. Ce qui fait que tout ce qui était... Il y avait une sorte de ferment d'initiative individuelle qui était très fort partout dans toutes les régions françaises. Et qui a expliqué plein de développement de techniques pour identifier, pour étudier les espèces animales et même végétales, et qui sont parties du milieu associatif. Je ne sais pas si le contexte actuel, où ce sont les salariés qui ont les clés des actions au sein du monde associatif, je ne sais pas si à l'époque que l'on vit, donc maintenant, ce même développement pourrait avoir lieu, en tout cas de la même façon. Donc c'est une des façons de me présenter. Voilà, sinon je suis né en Limousin, pas très loin de la Braine, donc de l'Indre. J'habite en Creuse, et dans une région où les milieux naturels sont omniprésents, et où pour un gamin qui est passionné, qui s'émerveille en permanence de la nature dès son plus jeune âge, il y a un terrain de jeu qui est assez fabuleux. Et tout s'explique par ça, je crois. Une curiosité très forte pour la nature. Et la découverte des chauves-souris a découlé de ça. On ne savait rien dans les années 80 sur les chauves-souris. D'une façon générale, hein, dans le monde. Et donc, c'était un objet de curiosité auquel venait s'associer la notion de mystère. Et donc ça titillait énormément l'envie d'en apprendre plus.
Donc ça veut dire que cet intérêt que tu as pour les chauves-souris, tu l'avais dès ton plus jeune âge ?
Alors pour les chauves-souris en particulier, non. Ça, c'est vraiment arrivé vers l'âge de 20 ans, à peu près. Avant, il y avait eu tout un processus de découverte et d'intérêt pour les insectes, les oiseaux, enfin, tout ce qui vit. Mais les chauves-souris, elles sont petites, nocturnes, volante et inaudible. Donc il faut vraiment, pour provoquer une rencontre, tout est dit en fait, il faut la provoquer. Elle ne se fait pas spontanément comme avec les oiseaux, les insectes et les plantes qui nous environnent, et il suffit de savoir les regarder pour s'y intéresser. Chauve-souris, il faut vraiment aller les chercher. Donc ça ne se fait pas, ça se fait rarement à l'âge où on est gamin, quoi.
Oui, parce qu'elles ne sont pas vraiment accessibles.
C'est ça, exactement. Ouais.
Et donc, qu'est-ce qui, en plus de ce fait qu'il faut aller les chercher comme bestioles, qui t'a fait te spécialiser dedans ? Parce que tu rappelais ton âge au début, mais ça fait donc très longtemps que tu étudies les chauves-souris.
Oui, c'est ça. Ça fait un peu plus de 35 ans maintenant. Mais je pense qu'il y a une conjonction de plusieurs facteurs. L'enthousiasme juvénile, enfin de la jeunesse. Le mystère, donc le côté mystérieux, donc de lié à l'envie de découverte que j'ai évoqué aussi. Et puis autre chose que j'ai évoqué, c'est l'absence de technique qui avait été développée pour partir à la rencontre de ces bestioles. Et c'est là qu'a joué un rôle de concordance temporelle entre tous ces éléments, l'envie de découverte, la jeunesse, l'enthousiasme qui va avec, et puis l'arrivée d'une technologie qui rend accessible ce qui ne l'était pas auparavant. C'est en effet dans les années 80 que sont apparus des instruments qu'on appelle des détecteurs d'ultrasons et qui permettent d'entendre l'inaudible sans prothèse auditive. Et donc tout ce qu'on appelle ultrason qui se définit comme des sons qui sont trop aigus pour nos capacités auditives, nous les humains. Et ça se mesure comme n'importe quel autre, on mesure des kilomètres, on mesure des grammes, et la fréquence des sons, ça se mesure en hertz, ou en kilohertz, donc en milliers de hertz. Et notre oreille entend des sons jusqu'à 20 kilohertz. Les sons les plus aigus que l'on peut entendre, on y est peu accoutumé, mais ça va être certaines sauterelles, par exemple, que les jeunes entendent et que les vieux entendent plus, parce que notre oreille, en vieillissant, perd les aigus. Et les chauves-souris émettent à des fréquences qui, pour la plupart d'entre elles, sont bien plus aiguës que ces 20 kHz, qui constituent la limite de notre audition dans les fréquences, puisque la plupart d'entre elles émettent des sons entre 30 et 80, 100, voire plus, kHz. Donc sans détecteur d'ultrasons, c'est-à-dire un appareil électronique qui capte ces sons haute fréquence et par différentes techniques nous permet de les rendre audibles à notre oreille, et ben, auparavant c'était le monde du silence, comme celui que Jacques-Yves Cousteau a décrit pour le milieu marin bien avant moi.
Du coup on a un peu brisé ce monde du silence avec tous ces nouveaux appareils qui, comme tu l'as dit, ont fait leur apparition dans les années 80 et qui ont changé un peu la manière dont on pouvait étudier les chauves-souris.
Oui, et alors là, il y a un autre phénomène qui est très étonnant, qui est apparu. C'est que ces détecteurs d'ultrasons auraient pu rester dans le monde de la recherche. C'est-à-dire quelques personnes qui se dotent de ces détecteurs, qui apprennent à écouter, reconnaître les espèces de chauves-souris, parce que c'était ça ma problématique au départ. Mais on en arrive, donc quelques 30 ans après, à un contexte humain où ce ne sont pas que des personnes qui font de la recherche, même on est très loin de ça, qui ont des détecteurs d'ultrasons. Et ce qui a joué pour expliquer ce développement des détecteurs d'ultrasons et cette utilisation par des milliers de personnes en France, c'est le fait que les chauves-souris aient été jugées d'une grande importance dans les systèmes écologiques. Ce sont en effet des prédateurs d'insectes nocturnes qui posent certains problèmes aux activités humaines, et parce que c'est souvent ce qui nous permet de juger l'utilité de la nature, n'est-ce pas? C'est les conséquences sur nous. et donc les chauves-souris ont été déclarées espèces protégées dans les années 1970. Et le législateur, après avoir jugé qu'elle méritait d'être protégée, eh bien, du côté des gouvernements, au niveau national et européen, il y a eu des décisions de prise pour que ces espèces soient prises en compte comme indicateurs de la santé de l'environnement. Autrement dit, dès qu'on, nous les humains, nous créons un projet qui risque d'avoir des conséquences sur le milieu naturel, les chauves-souris sont étudiées pour évaluer l'impact de cette activité humaine, de la création de cette activité, une bretelle d'autoroute, une ligne TGV, un champ d'éoliennes, un parc photovoltaïque, enfin tout ce qui perturbe la nature. Eh bien, on étudie entre autres, mais principalement les chauves-souris, pour déterminer quelles sont les conséquences sur toute la chaîne alimentaire qu'elles utilisent, c'est-à-dire tous les insectes qui eux-mêmes sont liés à la végétation. Donc il y a toute une chaîne de conséquences, et en étudiant les chauves-souris, toute cette chaîne de conséquences devient interprétable, appréhendable. D'où l'importance qu'elles ont pris dans la vie économique et industrielle de tous les pays du monde, et notamment en Europe, puisqu'elles sont protégées au niveau européen également. Et cette obligation de prise en compte fait que, associée au fait que le détecteur d'ultrasons a permis d'optimiser, mais d'une façon totalement insoupçonnée au départ, hein, la rentabilité de nos études sur ces espèces-là, tout le monde, tous les gens qui font des études d'impact sur l'environnement possèdent un détecteur d'ultrasons maintenant et sont obligés de s'en servir en étant performants pour reconnaître et étudier ces espèces-là, là où il y a des projets d'aménagement.
Oui, parce que le détecteur d'ultrasons, lui, va juste retransmettre les sons produits par les chauves-souris de façon à ce qu'ils soient audibles. Mais après, il faut être capable d'interpréter ce que va retransmettre cet outil pour pouvoir analyser ce qu'on écoute.
Oui, heureusement.
Heureusement.
Heureusement qu'on sert encore à quelque chose. Nos oreilles, notre cerveau. Oui, le détecteur est un outil qui va permettre la collecte d'une information. Mais après, derrière cette information, il faut que nous, on la traite. Et la traiter, ça commence déjà par... nos détecteurs captent tout un tas de sons nocturnes, puisque les chauves-souris sont nocturnes, donc on travaille la nuit. Et ces sons nocturnes, ça va être des bruits mécaniques qui ne sont pas biologiques, le vent dans les branches, les feuilles, etc. Et il va falloir faire le tri dans tout ça. Et puis plein d'insectes aussi, qui stridulent, qui cymbalisent la nuit, donc ils produisent des sons. Donc déjà, on va extraire ce qui est chauve-souris de ce qui ne l'est pas. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce tri, il faut identifier là où les espèces qui ont été enregistrées.
Et justement, tu as imaginé une méthode pour ce faire.
Oui, alors ça, c'est un raccourci qui peut faire apparaître le processus comme assez glorieux, finalement. Très valorisant. Mais en fait, tout est né de la curiosité d'un gamin, enfin d'une vingtaine d'années, à qui on remet un détecteur d'ultrasons dans les mains, et puis qui pousse la curiosité suffisamment loin pour essayer d'aller plus loin. Parce qu'on entendait des choses, mais on voyait rien, et donc on était incapable de savoir une chose qui n'a pas été dite là, à ce niveau-là, et qui est quand même super importante, c'est que les chauves-souris, les espèces de chauves-souris sont nombreuses. Quand on travaille dans une région comme la Brenne, par exemple, quel que soit l'endroit où on se trouve, puisque la Brenne est quand même un milieu assez préservé sur le plan nature, on est susceptible de contacter une quinzaine d'espèces de chauves-souris. Et en France, on a plus de 30 espèces de chauves-souris. On en a près de 50 en Europe. Donc il y a beaucoup d'espèces. Et donc quand on entend des sons la nuit, dont on sait qu'ils proviennent de chauves-souris, c'est pas pour autant qu'on est arrivé au but, savoir quelle espèce produit tel ou tel son. Et on est parti de rien là-dessus. Et en 1988, quand j'ai commencé à me poser cette question-là, il était impossible d'obtenir des réponses. Et pour obtenir des réponses, le seul moyen, c'était d'enregistrer les sons que produit telle ou telle espèce, en étant certaine de son identification. Donc ça passait par une phase vulnérante pour des individus de chauves-souris, les capturer, de préférence avec des filets à mailles très fines sur leur terrain de chasse, comme on peut capturer des oiseaux pour les baguer, par exemple. Mais là, il ne s'agissait pas de les baguer, il s'agissait juste de les identifier, savoir quelle espèce elles appartenaient, et ensuite, une fois qu'on les relâchait, pouvoir les suivre dans la nuit grâce à une capsule luminescente qu'on leur collait sur l'extrémité des poils du dos pour pas que ça les gêne dans leur mouvement en vol et qui produit une lumière autonome pendant plusieurs heures, ce qui fait qu'on suivait une petite lumière bleue ou verte, on avait deux couleurs, dans la nuit, et en sachant exactement que c'était cette espèce-là. Alors, dit comme ça paraît facile, courir la nuit tout en suivant un point lumineux en forêt par exemple, c'est un peu sport parfois, mais c'est uniquement ce moyen-là qui a permis d'enregistrer toutes les espèces dans toutes les circonstances de vol. C'est là que c'est important de préciser que les sons que l'on enregistre ne sont pas des sons qui servent aux espèces à communiquer entre elles, comme on est en train de parler tous les deux là. C'est de la communication sociale, et qui est restreint par un vocabulaire, tout un champ de signes vocaux, qui fait que l'on se comprend tous les deux, on parle la même langue. Voilà. Les chauves-souris font ça aussi. Elles émettent des cris de communication sociale. Mais ce qu'elles émettent en permanence quand elles volent la nuit, ce sont des signaux qui leur permettent de sonder l'environnement. On appelle ça des signaux sonars. Elles espèrent donc, à chaque émission de cri, dans les microsecondes qui suivent ou les secondes qui suivent, un écho de ce signal qui les renseignera sur la distance, la position dans l'espace, la texture, la forme, la vitesse de déplacement éventuelle de cet objet qui a renvoyé un écho du son émis par la chauve-souris. Mais tout ça se passe à une vitesse folle, puisque c'est jusqu'à plusieurs dizaines de cris par seconde qui sont susceptibles tous de renvoyer un écho, et tout ça. Et c'est ça dont on se sert, donc ces signaux sonars. Et comme c'est un outil pour sonder l'environnement, et bien chaque fois que l'environnement de vol change, et il change sans arrêt, en fonction de la distance et de la nature des obstacles qui environnent la chauve-souris, et bien l'outil change comme un menuisier qui va passer de la scie à la varbelope, à la perceuse, etc. etc. Et bien pour une seule espèce de chauve-souris, on a tout un répertoire de signaux sonars qui peut être, pas infini, mais de plusieurs dizaines de types de signaux pour une même espèce. Donc quand on croise avec le nombre d'espèces, ça rend l'élaboration d'une clé d'identification assez complexe. D'où la durée. C'est un processus qui a duré pendant une vingtaine d'années, parce que c'était pas mon métier en fait.
Ah oui.
Je me suis pas présenté comme ça, mais moi je suis artisan, j'étais, puisque je suis à la retraite maintenant, artisan horloger, mécanique ancienne, horlogère, et je faisais ça à temps perdu, en tant que bénévole.
D'où ce que tu disais,
par passion.
Avec les initiatives qui,
c'est ça,
qui remontaient,
exactement.
Avec des gens qui avaient le temps et l'envie de...
Et qui se donnaient le temps aussi.
Oui, oui. donc tu nous as dit qu'il y avait, pouvait y avoir de multiples ultrasons émis par les chauves-souris suivant le milieu, suivant les espèces. Est-ce qu'il y a un vocabulaire particulier pour définir ces sons?
Alors il y a un vocabulaire qui existait déjà, puisque l'étude du sonar des chauves-souris a fait appel à des techniques et un vocabulaire de physique acoustique qui avait déjà été investigué par tous les physiciens spécialistes de l'acoustique. Donc on a puisé dans ce vivier-là. Et puis, comme l'approche qui a été la mienne était une approche de naturaliste, avec une description sensorielle des sons qui nous étaient restitués, le naturaliste fonctionne avec ses sens qui sont visuels mais auditifs aussi, ou olfactifs parfois. Il a fallu créer un vocabulaire qui reliait ces sensations auditives à un vocabulaire qui pouvait être transmissible, puisque on peut essayer de faire de la recherche pour soi-même, c'est pas très intéressant, ça va pas très loin quoi, comme... Et dès qu'on veut communiquer, transmettre ce que l'on a découvert, quoi de mieux que le vocabulaire pour transmettre les choses? Donc créer des termes s'est imposé à certains moments. Et ce qui est intéressant, c'est que la création de ces termes qui étaient appliqués au son de chauve-souris a permis de mieux décrire aussi des sons qui nous sont plus familiers, ceux des oiseaux par exemple. Et on s'est dit, mais finalement, le vocabulaire que l'on a créé pour décrire les signaux sonars de chauve-souris ralentit 10 fois. En les ralentissant 10 fois, ça ressemblait à des petits cris d'oiseaux, des petits sifflements,
ouais,
par exemple, qui évoquent les cris de contact des petits passereaux que l'on entend communément autour de nous. Et la description de... On s'est rendu compte que les ornithologues ne s'étaient pas servis d'un vocabulaire pour décrire les cris de ces oiseaux, mais simplement procéder par analogie, enregistrer les sons et puis inviter les personnes qui voulaient apprendre à les reconnaître simplement à écouter, et puis par analogie avec ce qu'ils entendaient sur le terrain, s'ils avaient bien mémorisé ce qu'ils avaient entendu sur des cassettes ou des CD, ils faisaient le rapprochement entre les deux, mais il n'y avait pas de descriptif
sans
à l'aide du vocabulaire,
ouais.
Voilà.
D'accord.
Ou très peu.
D'accord. Et ben, pour se donner une idée de ce que ça peut être comme vocabulaire, est-ce qu'on peut prendre quelques sons d'espèces de chauves-souris?
Alors, avant d'aborder par l'illustration sonore les signaux de sonar de chauves-souris, il est peut-être important de décrire rapidement les deux techniques principales qui nous permettent de rendre les ultrasons audibles. Il y a une technique qui est familière à tous les auditeurs, là, mais dont le nom, par contre, n'est pas familier, c'est la technique de l'hétérodyne. Mais si je dis que l'hétérodyne, c'est ce qui nous permet le matin d'entendre les nouvelles sur notre appareil de radio à modulation de fréquence, pour écouter France Inter ou France Culture ou la radio locale, eh ben c'est la technique de l'hétérodyne qui nous permet d'entendre la voix des personnes ou des musiques, etc. Et donc cette technique hétérodyne a été utilisée par les premiers détecteurs d'ultrasons et elle les équipe encore parce qu'elle est très performante pour restituer des sons en vitesse réelle. Simplement, comme les signaux sonars de chauve-souris sont très courts et que notre oreille est limitée pour apprécier la structure exacte des signaux qui sont très courts, qui se mesurent en millièmes de seconde. Donc, les signaux sonars de chauve-souris font, pour les plus courts, moins d'un millième de seconde, et pour les plus longs, 80 à 100 millisecondes. Donc ça reste très très court. Ce qui fait que la technique hétérodyne nous restitue la plupart du temps des tocs, pouets, plis. Il n'y a que pour les signaux les plus longs, comme ces signaux de Rhinolof, par exemple, qui nous donnent des petits pépiments, sifflements. Et si on écoute des sons plus courts, comme par exemple une séquence de noctules communes, on va avoir des sons qui ressemblent à des pouet, pli, poti, poti, poti. C'est plus musical, mais ça reste ponctuel. Et puis si on travaille sur des signaux encore plus courts, comme des signaux des murins par exemple, il y a plusieurs espèces de murins. Mais les signaux de murins, alors que les signaux de noctules faisaient jusqu'à 20 millisecondes, eux ils font 3-4 millisecondes, des fois moins. Et alors là on va juste entendre des petits sons secs. Donc ça, c'est ce que nous donne la technique hétérodyne.
D'accord.
Il y a une autre technique qu'on utilise et qui ne peut être utilisée qu'en différé, puisque c'est de l'expansion de temps. L'expansion de temps direct, ça, on n'a pas encore inventé, on ne sait pas faire. Donc, expansion de temps, c'est tout simplement, on va ralentir le son enregistré, et le fait de le ralentir va abaisser la fréquence par le même facteur. Donc, si on ralentit un son de chauve-souris 10 fois, on va abaisser sa fréquence par un facteur 10. Ce qui fait qu'un son de la noctule commune que l'on a entendu tout à l'heure en hétérodyne, qui émet aux environs de 20 kHz, c'est la limite de notre audition. Mais on l'entend, seules les très jeunes oreilles arrivent à entendre la noctule commune. Et si on l'écoute ralenti 10 fois, ça devient des sons qui font environ 2 kHz. Et là, on est en plein dans notre sensibilité auditive. Et ils vont être 10 fois plus longs également, puisqu'ils ont été ralentis 10 fois. Et donc, ça donne ceci en expansion de temps, par exemple. Ce qui donne une succession de cris plutôt mélodieux, ça devient musical, et l'expansion de temps laisse le temps à notre oreille de mieux apprécier s'il y a une modulation de fréquence, si la fréquence d'un son varie tout au long de sa durée, ou pas, si c'est un son à fréquence quasi constante par exemple. Et puis pour le son de murin qu'on a entendu tout à l'heure qui était très court, alors il va rester court, ralenti 10 fois, mais on va quand même arriver à sentir. Il va ressembler à un petit cri d'oiseau, justement, et on va quand même arriver à sentir, avec un peu d'entraînement auditif, s'il module plus ou moins en fréquence, quel est son placement dans la gamme de fréquences, etc. Et voilà, c'est grâce à ces deux techniques que maintenant plein de personnes, principalement des jeunes, qui arrivent sur le marché du travail et qui sont embauchés par des bureaux d'études ou des associations qui étudient la nature, soit dans le cadre de travaux de recherche ou d'études d'impact sur l'environnement, justement, et qui sont amenés à travailler des détecteurs d'ultrasons, pour apprendre à reconnaître les espèces, ils se servent de ces deux techniques. Et il y a besoin d'un processus d'apprentissage. Parce qu'avec le nombre d'espèces et de types de cris sonores émis par chacune des espèces, ça demande un très long entraînement.
Justement, toi, tu mets beaucoup d'importance à enseigner et transmettre ces connaissances.
Oui. Alors, dit comme ça, je ne sais pas. Ça se fait tout seul. Enfin, c'est peut-être une question de nature, mais une question de plaisir aussi. Parce que le plaisir de la découverte, sans le partage, ça diminue énormément la notion de plaisir, non ? Donc dès qu'il y a partage, il y a échange aussi. Et en transmettant quelque chose à l'autre, soi-disant pour lui apprendre quelque chose, ça nous amène, nous, qui est à l'origine de cette transmission, à mieux raisonner, mieux structurer le message que l'on va transmettre, et ça nous apprend plein de choses en retour. Et puis les questions des personnes à qui on transmet l'information aussi créent plein d'échanges, et finalement être formateur, c'est très formateur.
Oui, et justement, là, on est à Saint-Michel-en-Brenne parce que tu fais la formation, justement, écologie et identification acoustique des chiroptères. Bon, là, c'est un niveau 3, donc un peu compliqué.
Ça sous-entend qu'il y a un niveau 1 et un niveau 2, déjà.
Avec comme petit nom identification des cas complexes, oui, ce qui dit tout. Comment ça se passe tous les jours, là, ces 5 jours avec les stagiaires? C'est à la fois, comme tu nous as décrit, analyser des sons, mais est-ce que tu vas aussi, par exemple, sur le terrain?
Ah oui, on va sur le terrain tous les soirs, puisque... Donc on est privé de terrain en journée, donc on est, c'est assez statique comme stage, en tout cas pendant la journée, et puis le soir... on chausse les chaussures de marche ou les bottes et on prend nos détecteurs et pendant 2 à 3 heures on va à la rencontre des chauves-souris sur leur terrain de chasse et pour mettre en pratique ce que l'on a vu pendant la journée. Mais en journée il y a des alternances aussi de cours plus magistraux, disons, surtout au début pour faire passer des choses, les fondamentaux, et puis pas mal d'exercices aussi interactifs. Et là au niveau 3, on en est à un stade où les personnes ont déjà un niveau de connaissance suffisant pour que ce soit très interactif, avec des exercices, des échanges, et ce qui permet de rendre la chose plus vivante, y compris en salle.
Et oui. Oui, parce que même en salle, on peut avoir les échanges et le plaisir de partager.
Oui, puis on écoute plein de sons, des sons qui ont été enregistrés sur le terrain et qui servent de base à l'écoute, aux échanges et à l'apprentissage.
Est-ce que tu sais comment les stagiaires, après, vont utiliser ce qu'ils apprennent pendant ces formations dans leur travail?
Oui, un peu quand même. Enfin, même si leurs objectifs ne sont pas tous les mêmes, pour la plupart d'entre eux, ils vont répondre à des commandes. C'est-à-dire, en gros, ils ont un donneur d'ordre qui est un aménageur, qui se propose de créer une ZAC ou une bretelle d'autoroute ou un champ d'éoliennes. Et l'administration oblige ce promoteur à fournir une étude d'impact qui montre que il n'y aura pas trop d'espèces protégées, notamment, qui soient impactées gravement par cet aménagement. Et donc les personnes que l'on reçoit en stage, pour beaucoup d'entre elles, sont les personnes qui vont devoir aller sur le terrain pour aller chercher les données brutes, c'est-à-dire identifier les espèces qui sont présentes sur la zone en question. Et donc, ces personnes-là vont prendre leur détecteur, aller sur le terrain, ou poser des enregistreurs automatiques qui vont récolter les sons de façon passive. Et ensuite, ils auront à identifier les espèces, et puis interpréter à la fois la quantité de contacts pour chacune des espèces, et puis le type d'activité, est-ce que c'est plutôt de la chasse? Est-ce que c'est plutôt de l'activité sociale qui indiquerait qu'il y a des gîtes ou des zones d'accouplement, par exemple? Et pour interpréter toutes ces données de façon à fournir des avertissements aux promoteurs en disant attention, là il y a des espèces qui sont sensibles, protégées, et il va falloir faire en sorte qu'elles ne subissent pas trop gravement les effets dus à l'aménagement, voire même annuler le projet d'aménagement en question s'il y a trop d'enjeux naturels. Et donc elles vont mettre directement en pratique tout ce qu'on voit pendant les stages. Et c'est la raison pour laquelle ces stagiaires sont la plupart du temps envoyés par les entreprises qui les emploient et qui ont intérêt à avoir des salariés performants pour collecter les données et les interpréter.
Et tu m'as dit que tu avais fait en tout à peu près 85 formations. C'est depuis 2010 que tu encadres celles au CPIE. Quel est ton ressenti là-dessus?
Oui, c'est vrai que le bilan comme ça, compacté, paraît impressionnant. Moi-même, j'ai du mal à le réaliser. Ça s'est fait quand même sur 30 ans. J'ai commencé en 95 à transmettre. Dans des cadres plutôt associatifs d'abord, et puis ensuite plus administratifs, et puis ensuite professionnels au sein du CPIE. Et 85 stages, plus de 1400 participations de stagiaires. Oui, c'est assez vertigineux comme bilan. Une des choses que j'en retiens, et qui est peut-être l'essentiel pour ce qui me concerne, c'est que ça a créé un paysage de connaissances humaines qui est très riche. Le nombre de rencontres qui laissent de bons souvenirs, très rarement des mauvais, franchement. Toutes les personnes qui viennent à ces stages sont des gens hyper motivés. Il y a une ambiance vraiment sympa. Et en tant que formateur, c'est un plaisir d'être de baigner dans ce cadre-là, de ce contexte humain-là. Donc ouais, c'est ce que je retiendrai le plus, c'est une superbe aventure humaine. Et puis technique aussi, bien sûr.
Oui, oui, parce que avec tout ce temps, tu as dû connaître des évolutions, des changements.
Ah ben, il a fallu faire des mises à jour. En fait, on en est encore au stade de la recherche dans ce domaine. Elle continue, disons. Même si on a quand même bien débroussaillé, j'espère. Mais et tant mieux. C'est bien quand on a encore un horizon qui se repousse au fur et à mesure qu'on avance. C'est que ben, c'est, l'horizon, c'est l'espoir. Donc, si... c'est encore plein de choses à découvrir, et tant mieux.
Ouais. Et enfin, une dernière question... pour les auditeurs qui n'ont pas forcément le matériel chez eux pour pouvoir écouter les ultrasons des chauves-souris, est-ce qu'on peut quand même entendre certains sons qu'elles font à l'oreille?
Ah oui, et je suis sûr que tous ceux qui nous écoutent ont déjà entendu ces sons, sans forcément les identifier d'ailleurs. Mais il suffit souvent de sortir de chez soi le soir, la nuit, et mais autour des lumières artificielles, qui attire les insectes et donc qui attire les chauves-souris en conséquence. On entend souvent des sons aigus, un peu stridents, qui font des tri, 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 tri. Et bien, ce sont des cris sociaux de pipistrelles, une des espèces les plus courantes qu'il y a chez nous. Il y a plusieurs espèces de pipistrelles, mais... et qui chassent beaucoup aux lampadaires. Et quand on entend ces signaux-là, c'est des signaux qui leur servent à communiquer entre individus. Ce ne sont pas leurs signaux sonars, que eux on n'entend pas, ils sont trop aigus, mais leurs cris sociaux, eux, restent audibles pour une oreille plutôt jeune et bien portante, disons.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
Et merci à toi, c'était très sympathique. Et une invitation à tous les auditeurs à s'intéresser à ce monde-là, ne serait-ce que sous forme de bienveillance. Parce qu'on est susceptible d'héberger des chauves-souris chez soi, à notre insu parfois. Hein. Et lorsqu'on découvre ces cohabitants, être bienveillant à leur égard. Ils nous rendent service, ils nous mangent des moustiques, des... Enfin, bon, voilà, c'est... Et puis ils existent, et c'est bien de cohabiter avec eux.
Voilà, donc ouvrez les oreilles et soyez curieux.
Belle conclusion.
Parlons nature. Bienvenue dans l'émission. Ça donne pas le bourdon. Proposé et co-animé par Indre Nature, l'association Épinété,
le Centre permanent d'initiative pour l'environnement
et la Réserve naturelle nationale de Chérine. Dans l'émission Ça donne pas le bourdon, tous ensemble, parlons d'environnement.